Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous invite à marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, comme toujours, je vous invite à marcher vers le bien-être, mais cette fois en chantant. Eh oui, en chantant. Pour bon nombre d'entre vous, ce n'est rien de nouveau. Vous avez probablement des souvenirs de marcher en chantant comme scout ou guide, à un camp de vacances, dans des sorties de groupe ou autres activités de plein air. En compagnie de nos deux invités, nous explorons les racines de cette pratique en France et au Québec, tout en illustrant par un exemple très actuel ce que cela peut vouloir dire de chanter en marchant, ici même à Montréal. En deuxième partie d'émission, nous nous entretiendrons avec un passionné de longue date des arts et des traditions populaires, Robert Boutillier. Natif de Chicoutimi, Robert a enseigné ses disciplines à l'Université Laval de 1978 à 1984. En 1987, il se rend en Bretagne et participe activement à la valorisation des traditions populaires bretonnes. Rentré au Québec en 2005, il dirige le Centre québécois du patrimoine vivant pour ensuite retourner en France en 2012. Il habite en Bretagne depuis 2020. Robert se joint à nous à partir de Québec où il est de passage. Bonjour Robert, vous nous entendez bien?
Bonjour Denis, oui, je vous entends très bien.
Parfait Robert, bien heureux de vous savoir des nôtres et à tout de suite.
À tout de suite.
Pour l'instant, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio Louis Rousseau, que j'ai surnommé le marcheur chantant du plateau. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors bonjour Louis et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rendre visite entre deux tours de chant, pour ainsi dire.
Bonjour Monsieur Chagnon, je suis bien heureux que vous m'ayez invité.
Alors Louis, avant d'amorcer la conversation, une question s'impose. Vous êtes venu ici en marchant et en chantant?
Assurément, oui. J'ai marché tout le long de mon chemin, de chez moi à ici, en chantant.
Et vous avez fait une belle rencontre.
J'ai fait une rencontre incroyable, comme j'en fais régulièrement, plusieurs fois, même durant le même tour de marche de la journée. Aujourd'hui, j'ai rencontré un parent de Félix Leclerc, si je me souviens bien, c'est le neveu d'un oncle. Enfin, il y a une relation, lui.
Ah oui.
Oui. Oui. Alors, je marchais sur Delormier, tout près de l'endroit où je suis présentement, et il m'a entendu entamer la chanson « Le petit bonheur ». Il s'est arrêté, il a sorti son appareil cellulaire, et il m'a filmé en sortant, et il m'a dit que... qui il était très content.
Formidable. Alors, c'est une belle entrée en matière. Louis, je vous ai présenté comme la marcheur chantant du plateau. Décrivez-nous une journée type de marche et de chant. Comment ça se passe?
Eh bien, c'est pas mal tous les jours un peu la même routine, qui est aussi guidée par le fait que je ne marche pas tout seul. Je marche avec mon meilleur ami, mon chien qui s'appelle Cookie. Alors, il me dicte un peu l'horaire de ma marche, mais normalement, ça commence vers 9 heures. Et puis, on a un circuit assez régulier, mais on varie de jour en jour pour passer dans les différentes rues du plateau Mont-Royal. Alors, c'est comme ça que ça commence. Est-ce que, finalement, donc à 9 heures à peu près, vers ces heures-là, on sort et puis on s'enligne pour entreprendre le plateau Mont-Royal par le parc Jeanne-Mance, que je monte jusqu'à l'avenue Mont-Royal. Et des fois, je déborde jusqu'à Laurier.
Ah oui.
Et puis, finalement, on fait le tour en passant sur Laurier jusqu'à Saint-Denis. Et quand je suis un peu plus en train ou qu'il y a la température le permet, je déborde jusqu'à Papineau et je redescends jusqu'à Sherbrooke.
Alors là, vous marchez et vous chantez.
Absolument. Je ne pourrais pas marcher sans chanter.
Et vous chantez constamment?
Sans arrêt. Sans arrêt. J'ai un répertoire d'environ une trentaine de chansons que j'entame, pas nécessairement l'une après l'autre, mais j'entame les chansons qui m'apparaissent appropriées à l'heure du jour où je fais ma marche. Le matin, c'est certain que mes chansons sont plus sont plus appropriés pour le matin, disons. Et puis l'après-midi, ben j'augmente. Si je fais ma marche l'après-midi, ben le volume augmente un peu.
Alors, vous marchez sur les rues commerciales, les ruelles, les rues de quartier, un peu partout?
Absolument, absolument. J'ai toutes faites les rues et les ruelles du plateau Mont-Royal à partir de l'avenue du Parc jusqu'à Papineau.
Et là, vous chantez, si j'ai bien compris, du Piaf, du Aznavour, du Brel et du Québécois, du Vigneault, La Pointe, L'Éveillé. Vous chantez, votre répertoire est quand même assez vaste.
Oui, j'ai plusieurs artistes que j'essaye d'honorer parce que, avec, à mes yeux, les meilleures chansons pour ce que j'essaye de faire. Parce que mes chansons sont essentiellement des chansons d'amour, d'une forme ou de l'autre. Mais ce sont des chansons d'amour parce que ce que je veux communiquer en chantant, c'est l'amour. En fait, mon but, c'est d'élever les vibrations sur le plateau Mont-Royal en mettant un peu de joie et de bonheur aux lèvres des gens qui me croisent et que je croise.
Et il y a beaucoup de circulation sur certaines rues. Est-ce que vous arrivez quand même à vous imposer avec votre voix?
Je ne suis pas en peine pour cela parce que ma voix, elle porte très bien et puis même que je dois essayer de me contrôler parce que à un moment donné, ça devient un peu criant. Mais non, la voix déborde de l'activité commerciale qu'il peut y avoir soit sur Saint-Denis ou sur Saint-Laurent parce que ce sont les deux artères principales. Les autres rues sont moins commerciales.
Mm-hmm. Alors vous marchez beau temps, mauvais temps?
Absolument. Beau temps, mauvais temps. Je pense qu'il n'y a pas une journée que je n'ai pas sorti cette année, parce que quand il pleut, j'ai mon uniforme de pluie, mon couvre-vêtement de pluie, et je ne me trouve pas de défaite pour ne pas marcher.
Excellent, excellent. Quel est l'accueil chez les gens?
Bien, l'accueil, à mes yeux, elle est très enrichissante pour moi et pour eux aussi de ce que je vois, ce que je comprends. Parce que quand je croise une personne, en général, qui me regarde dans les yeux, elle me fait un beau petit rictus de contentement, si on peut dire. Et puis certains qui sont plus volubiles me disent « Bon, merci, monsieur, de faire ce que vous faites, continuez. Vous faites ma journée aujourd'hui, monsieur, comme à chaque fois que je vous entends. » Alors, l'accueil, elle est ressentie, je pense, de part et d'autre comme étant très positive. Donc, c'est pour ça que je continue.
Vous avez l'impression d'apporter du bonheur à quelqu'un?
Absolument. Si ce n'était pas le cas, je cesserais, je vous le jure, parce que c'est ce qui me rend heureux aussi de voir que les gens réagissent de façon positive. C'est certain qu'il y a toujours un ou deux personnages qui se sentent lésés par mon chant, soit qu'ils n'aiment pas la chanson ou soit qu'ils n'aiment pas la force de ma voix. Mais je pense que c'est très négligeable quand on regarde la population du plateau. Je peux avoir peut-être un ou deux commentaires négatifs durant ma tournée à chaque jour.
Vous me parliez des gars de la construction qui aiment beaucoup vos chansons.
Absolument. Comme vous le savez, à Montréal, il y a beaucoup de construction au niveau des rues. Et puis, il y a beaucoup d'édifices qui sont en construction aussi. Puis, je suis ébahi à chaque fois que quand je passe, même au tout début, quand je passais, je prends l'exemple de l'avenue des Pins qui a été en construction depuis un an. Mm-hmm. Et puis, il y a quand même beaucoup de travailleurs qui ont travaillé sur ce chantier-là. Et je suis toujours accueilli avec de grands sourires et des mains qui me saluent. Et puis, absolument. Alors, les travailleurs sont très enchantés, je pense, de m'entendre. Je sais pas, je pense qu'ils sont pas habitués d'avoir quelque chose de positif dans leur journée comme ça.
Un peu de beauté dans la journée.
Un peu de beauté, je dirais, oui, vous avez raison. Oui.
Et les écoles, vous chantez près des écoles aussi.
Ah, j'ai trouvé que c'est arrivé par hasard. À un moment donné, je chantais près d'une école sur la rue des Pins, et Jeanne, pas Jeanne-Mance, mais Laval. Et puis, c'était une école c'est une école primaire. En fait, ce sont tous des écoles primaires que j'ai vadrouillées autour à quelques occasions. Et puis, quand je passe avec mon chien Cookie, les enfants, maintenant, s'agglutinent à la clôture et puis ils viennent me rencontrer, me dire bonjour. Ils me disent bonjour. Puis, comme de raison, ils sont aussi très, très enchantés de saluer et de câliner mon chien Cookie.
Et vous passez à l'heure de la récréation, probablement. Ils sont venus habitués à vous, ils vous attendent.
Absolument. Même aujourd'hui, j'ai passé devant une... en fait, ce n'était pas une école. Aujourd'hui, c'était des... J'étais ébahi de voir ça. C'était des personnes qui sont responsables de la prématernelle. Ils se promènent avec les petits-enfants qui ont 2 ou 3 ans, qui sont tous enchaînés comme des chenilles. Là. Mmh. Et puis, alors aujourd'hui, il y avait 2 chenilles que j'appelle comme ça, là, qui avaient de 10, 12 petits-enfants. Et puis, tout le monde me connaissait, puis m'envoyait la main. Puis, des enfants de 2, 3, 4 ans, là, pas plus que ça. Puis, ils étaient vraiment... Ça m'a vraiment fait un beau coup de cœur.
Et vous me disiez que les femmes ont une chanson qu'ils aiment particulièrement.
Bien, celle-ci, ça fait peu de temps que je la chante parce que, comme vous savez, Jacques Brel est un artiste qui vraiment donne toute son âme quand il chante. Et puis, particulièrement, la chanson que j'essaye de lui faire honneur en la chantant avec le plus de passion possible, c'est « Ne me quitte pas ». Et quand je m'y mets et quand les conditions sont bonnes, il y a plusieurs femmes qui ont versé des larmes là-dessus. Mmh. Oui, oui, mmh. Oui.
Ça, c'est dans les ruelles, dans les rues, le long de...
Dans les rues, sur Mont-Royal, sur Saint-Laurent, ouais. Oui, sur Duluth, oui, absolument, absolument.
Dites-moi, Louis, quand avez-vous entrepris ce projet? Comment tout a commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire?
Bien, c'était pour... dans mon cas, c'était pour sortir de la noirceur qui a été créée avec les restrictions sanitaires qu'on a vécues depuis 2020. Alors, tout le monde était assez, je pense, dont moi particulièrement, je me sentais... vraiment éteint de ce côté-là. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Puis, je vous parlerai, si je me permets, comment je me suis allumé, mais c'est comme ça que ça a commencé. Il y a eu une étincelle qui s'est faite en moi qui a fait en sorte que j'ai entrepris ce projet-là.
Vous me disiez que c'était le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie,
oui,
justement.
Oui, je ne savais pas si je pourrais en parler, mais je l'ai vraiment vécu comme ça, le jour de l'Épiphanie. J'ai eu mon Épiphanie, donc j'ai eu comme pas une révélation, mais une compréhension de ce que le monde vivait présentement. C'était très clair dans mon esprit qu'il se passait des grands enjeux planétaires.
C'était en 2021, donc, pendant la pandémie.
Oui, c'était en 2021 que j'ai eu cette illumination-là, le 6 de janvier. Et puis, j'ai vraiment senti qu'on me disait, « Hey, t'as une belle voix, Louis, serre-toi-en, puis répands la joie et le bonheur. » Et c'est ce que j'ai fait.
Et ensuite, Cookie est arrivé dans votre vie.
Bien, c'est à ce moment-là, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, parce que j'ai eu comme des contraintes de mouvement, si on peut appeler. Et lorsque j'ai pu finalement entreprendre cette mission-là que j'ai sentie, mes filles m'ont fait un cadeau avec ce chien-là, un petit épagneul américain qui s'appelle Cookie, et puis que je n'avais pas perçu nécessairement je n'étais pas réceptif au début parce que je savais que ça allait changer ma vie, mais je vous avoue que ça a changé ma vie pour le mieux et puis jamais je ne retournerai en arrière.
Bon. Parce qu'il vous a obligé à marcher.
Absolument.
On peut résumer ainsi,
oui,
probablement.
Oui, parce que probablement que j'aurais démissionné si je n'avais pas eu une obligation physique de mon chien, oui, de lui faire faire l'exercice et de lui faire faire ses besoins en quelque part. Alors, donc, il n'y avait pas d'excuse pour ne pas marché comme j'y aurais pu en avoir si je n'avais pas eu cette... Mais maintenant, avec un chien ou sans chien, je continuerai à marcher sans souci.
Alors, vous avez commencé à marcher et comment s'est fait le lien entre le chant et la marche? À quel moment?
Bien, c'est au tout début, parce que mon ressenti que j'ai eu à ce moment-là, c'est que je devais élever les vibrations. Je l'ai senti comme ça, sur le plateau, en chantant, parce que j'ai compris que j'avais une voix qui pouvait faire cela. Alors, donc, ça s'est fait automatiquement.
De façon très naturelle.
De façon très naturelle. Je suis parti un matin. J'ai fait, comme de raison, des ajustements au niveau de mes chansons, parce que j'avais pas un répertoire d'une trentaine de chansons. Mais Jean du Pays, je la connaissais. J'en avais une couple que je connaissais. Mmh. Alors, j'ai commencé lentement, puis avec un peu de timidité, disons, en n'étant pas trop sûr de... Mais maintenant, je marche avec confiance, puis avec joie, puis le sourire aux lèvres à chaque fois que j'entreprends une chanson. Il faut que je mette un sourire aux lèvres, même si la chanson est triste. Je fais un sourire triste.
Bien, j'allais vous poser la question, justement. La première fois, comment vous vous sentiez? Vous marchez, vous êtes en public, vous commencez à chanter, il y a plus de timidité, là, il y a un peu de « ouh, je suis nerveux, là ».
Oui, mais au début, oui, puis mais ça n'a pas duré longtemps parce que je savais que c'était ma mission. Alors, la timidité, je l'ai évacuée tout comme toute autre restriction qui pouvait exister à ce moment-là. La peur... J'ai éliminé la peur de mon vocabulaire, de ma vie. Il n'y a rien qui ne me fait peur maintenant, rien.
Et la confiance du public, si je peux l'appeler public, justement, vous a motivé, vous a inspiré à continuer.
Oui, absolument. Donc, je recevais mon feedback à chaque jour de gens qui me disaient... au début, les gens trouvaient ça surprenant d'entendre quelqu'un qui chante à haute voix, parce que moi-même, je n'en connaissais pas qui faisait ça à Montréal. Et puis, donc, il y avait des surprises qu'on voyait sur le visage, mais je pense que voyant ou entendant que ma voix était juste et puis que mes chansons étaient appropriées pour les moments que nous vivions, eh bien, les gens me faisaient des marques d'approbation, puis de plus en plus verbales, puis de plus en plus sympathiques en me croisant les mains, en me donnant des accolades.
Quand même, oui.
Ah oui, absolument, oui, absolument.
Et votre famille?
Ma famille, disons qu'ils trouvent que j'exagère peut-être un peu là, dans... Parce que pour elles, c'est un changement radical dans ma vie. Moi, je suis ingénieur de formation, je suis un ancien militaire, et puis j'ai toujours été assez cartésien dans toute ma vie. Et puis là, que je me mette à chanter sans aucune restriction, pour eux autres, dans certains cas, on a pensé que... les restrictions covidiennes avaient affecté mon esprit, disons-le aussi.
Bonne façon de le dire. Ben, alors, maintenant, un an et demi plus tard environ, là, quelle est votre appréciation de cette expérience?
Moi, je sens que je fais une différence. Je sens que je fais une différence parce que ma perception... c'est qu'il y a des gens qui sont positifs, puis il y a des gens qui sont négatifs. Moi, je les appelle mes petits diables puis mes petits anges. Là. Alors, mm-hmm. quand j'ai beaucoup de respect pour les deux types de personnes maintenant, parce qu'au début, j'avais tendance à m'éloigner des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais. Maintenant, je les accepte comme faisant partie du décor, si on veut dire, et puis que j'amène progressivement à changer d'attitude.
Vous me disiez que ce sont les plus belles années de ma vie.
Définitivement, définitivement.
Pourquoi?
Parce que à chaque jour, j'ai du feedback positif de la valeur que j'apporte aux gens. Autrement dit, quand on fait un job, on n'a pas une récompense immédiate à savoir est-ce que j'ai fait une belle job aujourd'hui ou est-ce que j'ai bien fait. On l'a éventuellement dans un an ou dans six mois, dans trois ans, l'augmentation de salaire. Mais pour moi, mon salaire, c'est les remarques positives et puis les visages souriants que je mets sur les personnes à chaque jour, ça me fait vraiment un grand bien personnel.
Vous m'avez dit en pré-entrevue que c'est une des premières fois que vous avez versé des larmes. C'est touchant.
Ça, c'est vrai. J'ai eu plusieurs périodes difficiles dans ma vie. J'ai perdu mon épouse il y a 25 ans. J'ai perdu mes parents aussi. Puis même dans ces situations-là, mes parents, je les aime, mes parents. Ma femme, je l'aimais, mais je n'étais pas capable de verser de larmes. Pas capable.
Et en chantant?
Et en chantant, ça a comme débloqué. La valve s'est ouverte. Et puis maintenant, il suffit de peu de choses pour faire remonter les émotions en moi.
Donc, vraiment. C'est toute la sensibilité qui revient à la surface.
Oui, parce que souvent, je me sentais comme un bois sec, là, comprenez-vous. Maintenant, je suis
la un sève, arbre vivant.
La sève sort, oui. Je vous l'assure, c'est vraiment magique. Puis c'est un bon sentiment de pouvoir pleurer parce que c'est les sentiments qui s'expriment de cette façon-là.
Et la marche dans tout ça, physiquement, vous vous sentez bien?
Là. Absolument. Moi, monsieur, j'ai 76 ans. Je marche comme aujourd'hui. Je vais avoir fait plus que 11 km. Hier, 9 km. Ma moyenne, c'est 7 km. Par jour. Et puis, jamais j'aurais cru que je ferais ça de ma vie. Puis maintenant, je suis en parfaite forme.
Mental, physique, spirituel, c'est l'épanouissement total.
Absolument, sous tous les angles. Physique, ça, c'est certain. Spirituel, c'est encore plus certain. Puis émotionnel, intellectuel. Parce que quand tu marches aussi, maintenant, j'ai pris l'habitude de prendre le temps. Prendre le temps de regarder les arbres, de regarder les nuages. Et puis, on voit la beauté partout. Puis, même ça, ça m'émeut. Même ça, ça m'émeut.
Qu'est-ce qui vous pousse à continuer?
C'est
le côté social?
C'est un petit peu... Peut-être que c'est, je dirais... C'est pas selfish. C'est de sentir que je fais une différence dans la vie des gens. Il y a une dame que je croise régulièrement en sortant de chez moi. Je sais pas si je peux dire ça. Je vais dire son nom. C'est Madame Vicky. Et puis, elle affiche une grande tristesse. Et puis, à chaque matin, je lui donne une accolade en passant.
Ah, c'est joli.
Et puis, elle me dit merci à chaque matin. Alors, ça me fait du bien.
Et que dire de plus? C'est ce qui vous amène à continuer le chemin.
Absolument, absolument.
Oui. Combien de temps encore? C'est votre mission, combien de temps
Moi,
encore?
Je vais vivre ma vie jusqu'à la fin de cette façon-là, à moins qu'on me mette en prison, parce que c'est déjà arrivé, mais on verra avec le temps. Moi, je me sens vraiment investi, et puis je sais que j'ai, on peut en dire ce qu'on voudra, mais j'ai mes anges gardiens qui me protègent.
En terminant, Louis, une de vos chansons préférées, « Jean du pays ».
Absolument.
J'aimerais vous entendre.
Alors ça, c'est la chanson, c'est pratiquement notre hymne national de Gilles Vigneault, Jean du pays, puis que je la chante à tous les jours. Et puis c'est la chanson qui rejoint le plus de gens parce qu'elle est pertinente à cet instant-ci de ce qui se passe dans le monde. Alors, je peux vous la chanter si vous voulez.
Oui, quelques mesures, et puis ça nous ferait plaisir.
Alors. Le temps que l'on prend pour se dire « je t'aime » et tout ce qu'il reste à la fin de nos jours, les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, Jean du pays, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
Formidable. Très, très beau, Louis.
Merci.
Merci beaucoup de votre passage.
Mais j'invite les gens à écouter vraiment tous les couplets de cette magnifique chanson. C'est de la poésie qui vaut la peine de parce qu'on écoute seulement Jean Dupeyy, le refrain, mais les trois couplets sont magnifiques.
Et on invite tout le monde à aller vous voir sur le plateau, marcher et chanter.
Il n'y a plus grand monde qui ne me connaît plus sur le plateau, puis certainement incluant tous les policiers.
Et voilà, ça c'est une autre histoire, on y reviendra peut-être un jour. Alors encore une fois, merci beaucoup Louis. Restez là parce que nous nous transportons maintenant à Québec. Robert, vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là, oui.
Superbe, alors excellent Robert. Écoutez, de par vos études, votre enseignement, votre participation à la valorisation des traditions populaires ici et en France, et vos nombreuses rencontres avec des chanteurs et conteurs des deux côtés de l'Atlantique, vous êtes très bien placé pour nous entretenir de la relation marche et chant. Parlez-nous d'abord de cette longue tradition, justement, chant et marche en France.
Ben oui, en fait, un des aspects de la chanson, quelle qu'elle soit, la chanson de tradition, alors on va rester dans cet univers-là, on va pas être du tout dans le même univers que Louis. Louis chante des chansons poétiques, des chansons d'auteurs, compositeurs, interprètes. C'est une démarche effectivement individuelle, à la fois au niveau du créateur puis au niveau de ceux qui les chantent. Alors que la tradition orale, depuis des siècles, c'est une matière, un matériau qui rassemble les communautés, qui rassemble les gens, ils n'ont pas appris les choses qu'ils savent, ils ont baigné dedans, ils sont tombés dans la marmite, et puis ils possèdent quelque chose en commun avec les autres. Là, on parle d'une communauté, par exemple, prenons une communauté villageoise. Mm-hmm. Donc, les chansons de tradition orale, elles appartenaient à tout le monde, puis elles appartenaient à personne. Tout le monde pouvait les interpréter.
Ah, oui.
Et un aspect de ce répertoire, c'est son côté fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qu'on pourrait appeler à écouter, mais d'autres, donc on ne faisait que les écouter, alors que d'autres servaient à accompagner des gestes. La chanson à danser, par exemple, la danse est un geste rythmique. Mm-hmm. Et la chanson à marcher, la marche, c'est aussi un geste rythmique. Quand je fais des ateliers d'initiation au chant à la marche, je dis la marche, c'est une danse comme les autres, quoi. Le chant va donner le cadre mélodico-rythmique. Oui. Et puis, c'est ce rythme-là qu'il faut suivre. J'écoutais Louis tout à l'heure chanter Jean Dupeyy. Pour moi, ça reste assez mystérieux d'avoir un geste, la marche, qui ne rentre pas dans le rythme musical de ce qui est en train de l'accompagner. C'est un mystère pour moi, parce que le chant à la marche, au contraire, c'est la relation du geste avec la rythmique de la chanson qu'on est en train de chanter. Alors ça fait des siècles. Et comment est-ce que ça a pu se développer? Bon, là, évidemment, on n'a pas de traces explicatives, mais le chant à la marche a été utilisé dans deux types de circonstances. Je vais passer rapidement sur les rituels. Il fut un temps où la noce paysanne, puis là je parle de la France, je parle pas du Canada, du Québec, on va en parler tout à l'heure parce que les situations sont assez différentes. Donc par exemple, quand le cortège de la future mariée campagnarde, paysanne, on partait de chez la mariée à 3-4 km du bourg, et puis là on allait collectivement, tous les gens qui allaient à la noce, marchaient en chantant, en allant vers le bourg, en allant à l'église. Donc, il y avait appelons ça une pratique rituelle. Les marches de conscrits, par exemple, les jeunes appelés qui faisaient une parade et puis qui passaient, qui faisaient le tour des maisons, des villages pour prendre un dernier coup avant de s'engager. Alors, ils chantaient des chansons à la marche aussi. Alors que dans des contextes un petit peu plus de vie quotidienne, de vie de la communauté, ça avait aussi un usage d'accompagner le geste obligatoire de marcher, sachant que les gens n'avaient évidemment ni voiture ni autre moyen de locomotion, et très souvent, en France en tout cas, le cheval, par exemple, c'était l'apanage des riches. Hein. Le paysan n'avait pas de cheval. Oui. Donc, si son hameau ou son village était à 4 ou 5 kilomètres du bourg, à chaque fois qu'il devait aller au bourg, pour des raisons commerciales ou des raisons religieuses, par exemple, le dimanche, quand on allait dans la messe, quand on avait 5 kilomètres à marcher, d'abord, on ne marchait pas tout seul. C'est tout le village, c'est le monde qui allait. Et puis, le chant était une façon d'accompagner, de soutenir, et je dis dirais, de renforcer l'efficacité du geste. C'est pour ça que je dis que c'est un usage fonctionnel que le chant à la marche. Comme ici, par exemple, on connaît moins le chant à la marche, mais dans notre imaginaire collectif, tout le monde a entendu parler des chants d'aviron. Là. Tous les voyageurs des pays d'en haut, ils chantaient en avironnant. Donc, le chant accompagnait ce geste et effectivement, ben, il rythmait le geste également. Alors, la marche est exactement la même chose.
D'où l'efficacité, et, c'est ça?
Voilà, pour l'avoir fait, c'est sûr que quand on chante en marchant, ben, on marche mieux et on marche plus vite et on se fatigue moins. C'est paradoxal que ça paraisse.
Il y a beaucoup d'entrain, c'est ça?
Voilà, il y a de l'entrain parce que c'est pas un chant, c'est un chant qui est rythmé. Forcément, c'est-à-dire que chaque pulsation, si je donne un exemple par exemple, je vais prendre une des formes qui est très très utilisée en Bretagne, on appelle ça des chants à dizaines, c'est pas « voilà 10 heures que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison », mais si vous écoutez ça, il y a un rythme, voilà le village, enfin, ça fait 10 heures que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison, mais chaque pulsation c'est un pas. Alors quand on marche à cette vitesse-là, on avance.
Je me suis retrouvé à taper du pied en studio.
C'est ça, en fait. Oui. C'est quasiment le gauche-droite des marches militaires, oui. Sauf que ça n'a pas l'aspect martial et ça n'a pas l'aspect militaire. Mm-hmm. Et là, je l'ai fait un petit peu rapidement. Et on peut adapter aussi selon la topographie, selon qu'on descend, selon qu'on monte, selon l'état de fatigue. Je pourrais faire « Voilà 10 heures que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison. » Ben voilà, le pas est un peu plus lent, un peu plus marqué. Mais on sent, vous l'avez sans doute senti intrinsèquement, oui. C'est vraiment un rythme binaire, un gauche-droite qui entraîne chaque pas. Et puis, voilà. Puis là, cette chanson-là raconte rien. Voilà 10 heures que nous marchons, voilà le village, le beau village, voilà le village que nous cherchons, prenons courage. Ensuite, voilà 9 heures que nous marchons, voilà 8 heures que nous marchons. Donc, on descend de 10 à 1, et puis on répète tant qu'on veut. Ça veut dire que pendant 3, 4, 5 minutes, une seule chanson peut accompagner pas loin d'un kilomètre. Mm-hmm. Alors, voilà.
Vous me disiez que les agriculteurs, par exemple, lorsqu'ils allaient au bourg, justement, pour vendre leurs produits...
Ouais, au marché, en fait.
Au marché, oui. Donc, c'est le genre de marche rythmée et chantée était la tradition.
Oui, exactement. Ouais. Et il n'y a pas un répertoire spécifique. Toute chanson qui possède ce rythme binaire qui permet le geste, mm-hmm. On pouvait chanter des choses qui n'ont rien à voir avec, qui ne racontent pas une histoire particulière, qui ne sont pas liées au fait de marcher, il n'y a pas un refrain qui nous dit « marche donc ». On peut prendre une chanson, je vais en prendre une autre que tous les Québécois connaissent. Si je fais « à la claire fontaine m'en allant promener », tout le monde connaît ça. Mm-hmm. Mais c'est pas, on sent pas intrinsèquement qu'il y a un mouvement qui nous amène à marcher, alors que si je fais « à la claire fontaine, ridin dans la ridon, ridon, ridin, ridin dans », ben là tout de suite, on a ce binaire. Et puis, la même chanson, dans un autre système mélodique et rythmique, permet de soutenir la marche. Et puis, c'est une question de collectif, on le disait tout à l'heure, on peut chanter tout seul, mais quand on est 10, 15, 22, y a un meneur, puis les autres, ils répondent. Donc, on alterne. Le meneur, il se fatigue pas parce qu'il chante la moitié de il chante la phrase, que tout le monde répond pendant ce temps-là, il se repose. Il prend la deuxième phrase, tout le monde la répond, et inversement, ainsi de suite. Donc, puis quand la chanson est finie, c'est quelqu'un d'autre qui en prend une autre. On change de meneur. Le premier meneur devient répondeur comme tout le monde. Alors, il y a vraiment un partage collectif à la fois de la tâche, de la responsabilité de mener, et puis la pratique est collective.
Donc, c'était essentiellement une chanson à répondre.
Ah oui, c'est nécessairement.
Nécessairement.
Le chant a marché et il est à répondre.
Oui. Oui, oui. Et on pouvait marcher, quoi, des 8-10 kilomètres à l'époque?
On pouvait, ça dépend. 8-10 kilomètres, c'est un peu...
Long.
C'est tout à fait faisable. Oui. C'est un peu long. C'est-à-dire que, disons qu'un bourg breton ou normand ou poitevin, grosso modo, quand on est à 10 kilomètres du bourg, c'est parce qu'on est vraiment dans les extrémités.
Oui, justement, il y a des différences par région, justement.
Ah, absolument. Là, c'est-à-dire que... Ça dépend d'où on est, ça dépend de la distance qu'on a à faire.
Oui,
On peut marcher. On peut chanter pendant 2 km seulement parce qu'on est à 2 km du bourg. On peut marcher pendant 6 km parce qu'on est à 6 km du bourg. Là, tout dépend, il y a des variables innombrables. Mais effectivement, toutes les régions, au minimum de l'ouest de la France, partagent cette pratique, cette tradition, cette pratique du chant à accompagner la marche.
Est-ce qu'on la pratique encore aujourd'hui, d'une certaine façon?
On la pratique d'une certaine façon, mais elle a changé de contexte.
Oui.
À un moment donné, c'était quasi obligatoire. C'est-à-dire que beaucoup de choses de la vie quotidienne étaient marquées par des pratiques traditionnelles musicales ou chantées. On chantait souvent pour se désennuyer, on chantait en travaillant, on chantait. Les femmes chantaient en faisant le ménage, en cousant, en tissant,
Ça.
Les gars, s'ils travaillaient au chant, moi, un des plus extraordinaires chanteurs que j'ai rencontré, un Acadien, Henri Saunier, lui était charpentier de métier. Il me disait, moi, quand j'étais dans mes charpentes, je chantais toute la journée.
Ah,
et
oui.
Non, là, pas pour accompagner un geste, mais pour se désennuyer. Aujourd'hui, on ouvre la radio, on a des iPods dans les oreilles. On a délégué la fonction de se désennuyer au quotidien à ceux qui font de la musique. Nous autres, on l'écoute. On est devenus consommateurs et non pas producteurs. Alors que il n'y a pas plus longtemps que 3 générations, si tu ne faisais pas ta musique, il n'y en avait pas. Donc, il y avait cette espèce d'obligation de remplir l'espace sonore. Et ça, c'est très marquant de la tradition orale. Bien sûr, aujourd'hui, les contextes ont changé. On a de la musique en boîte, on a de la musique partout sans qu'on ait besoin de la faire. On n'a plus besoin de se déplacer à pied ou très peu. Donc, le chant à marcher a perdu sa fonction utilitaire. D'où aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça a changé de contexte, c'est devenu un moment d'animation culturelle, appelons-le comme ça, un temps choisi, un temps proposé à des gens, pas pour une fin utilitaire justement, mais simplement pour une fin ludique, une fin de divertissement collectif, ou comme une veillée de danse, quelque chose comme ça.
Mm-hmm. Robert Louis a une question à vous poser.
Ah bienvenue, Louis.
c'est peut-être pas une question comme telle. Moi, je trouve que c'est dommage que aujourd'hui on consomme de la musique en étant passif, au lieu de s'investir dans le chant, en fredonnant ou je trouve ça dommage parce que on n'a pas les mêmes vibrations, on n'a pas le même ressenti quand on ne fait qu'écouter de la musique et lorsqu'on la chante, la chanson.
Ah, mais là, vous prêchez à un convaincu, c'est exactement ce que je dis, c'est que la tradition, il fut un temps, elle était obligatoire parce que s'il n'y en avait pas eu, on n'aurait rien entendu, il ne se serait rien passé, on ne pouvait pas consommer parce qu'il n'y en avait pas de l'extérieur.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, on a complètement changé. La culture médiatique a complètement modifié le rapport que les gens ont avec le chant. De pratiquants, ils sont devenus consommateurs, ils sont devenus auditeurs. Et c'est vrai que le travail des animateurs culturels comme moi et comme d'autres, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent chanter. Tout le monde peut chanter, il y a toutes sortes de circonstances, il y a toutes sortes d'occasions de le faire. Il faut juste se mobiliser pour se mettre à l'écoute de là où il y en a du chant et puis y aller. Mais je voulais revenir sur un truc. J'ai parlé beaucoup de la France comme exemple parce que c'est de là que vient cette tradition.
Oui.
Au Québec, pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé de répertoire et de pratique et de fonction à marcher? Parce que le peuplement et la topographie l'a pas vraiment, et le climat ne l'a pas vraiment permis. Quelqu'un qui vit en Bretagne, 12 mois par année, il peut marcher dehors, il n'y a pas de problème. Ici, pendant 6 mois, on ne peut pas.
En raquette, c'est plus difficile, peut-être.
En raquette, c'est pas mal plus difficile. Et puis même en botte dans slush, c'est pas plus facile non plus. Donc, et les gens, la France, le peuplement rural est fait autour de hameaux, de villages, qui sont concentrés à un bourg, un chef-lieu, la petite ville centrale avec la mairie, l'église, etc., l'école. Alors qu'ici, les villages, c'est une... Vraiment, c'est plutôt fin 18e, début 19e que ça commence. C'est-à-dire que pendant deux siècles, tu n'avais pas de village.
Mm-hmm.
Et puis le peuplement s'est fait de façon linéaire et non pas regroupé.
C'est vrai.
Il n'y avait pas de hameaux. C'est que les rangs, chacun vivait à 4 ou 5 arpents de l'autre. Il n'y avait pas de collectif de pratique du chant pour se déplacer. Et puis ici, on a eu obligatoirement le cheval beaucoup plus tôt, puis c'était pas un signe de richesse. Le paysan qui n'avait pas de cheval ici, il serait mort.
Mmh.
Donc les gens, pour se déplacer, ont pris le cheval très rapidement. Donc, la circonstance sociale qui fait que le chant à la marche s'est perpétué jusqu'au 20e siècle en France, ici, les chants sont arrivés, mais ils ont perdu cette fonction-là. Ils en ont gagné d'autres, par ailleurs. Par exemple, ils se sont transposés vers l'aviron, puisqu'on a développé toute une pratique du geste rythmé par le chant en faisant du canot.
Tout à fait.
Mmh. Alors qu'on ne rythmait plus la marche. Donc, les chansons sont restées. Je donnais l'exemple de la Clairefontaine tout à l'heure. On a des versions de la Clairefontaine ici, mais j'en connaissais pas dans toutes les collectes que j'ai faites et toutes les choses que j'ai lues qui étaient utilisées à la marche au Québec.
J'ai parlé en entrevue, en introduction plutôt, Robert, du mouvement scout Les Camps d'été. On retrouvait quand même les chansons à répondre. Est-ce que c'est une évolution qui s'est faite au fil du temps?
C'est une évolution plus récente. Les mouvements de jeunesse organisés, c'est une invention du 20e siècle. C'est grosso modo entre les deux guerres que ça a vraiment commencé à se développer. Si on se rappelle, Baden-Powell lui a fondé le mouvement scout juste après la guerre des Bois, avant la Première Guerre mondiale, avant que ça devienne un phénomène qui gagne au-delà de l'Angleterre et au-delà des pays anglophones le monde entier. Ça a pris quelques décennies. Donc finalement, les mouvements de jeunesse, c'est quelque chose de récent. Mais bien sûr, ils ont utilisé abondamment la chanson pour faire de la marche ou pour faire du collectif, chant à répondre, chant à marcher, mais avec tout un répertoire qui n'était pas nécessairement issu de la tradition. Il y a plein de chants scouts à marcher qui sont pas, dont on n'est pas héritier par tradition, qui ont été écrites par des poètes scouts je ne sais pas exactement qui a pu écrire telle chanson. Sur la route, il faut marcher, aller. Oh, tous les gens qui ont fait un camp de vacances ou un camp de scout connaissent cette chanson-là. Mais ça, ça ne vient pas de la tradition, à la différence de la Clairefontaine ou les prisons de Nantes ou plein de des centaines de chansons qui ont été utilisées à marcher pendant des siècles. Enfin, entre autres usages, parce qu'il y avait d'autres usages, bien sûr.
Mm-hmm. Je reviens à la France. Je me pose la question, est-ce que le chant et la marche ont été politisés? Je dis en France, c'est un peu partout, là, parce que parfois dans ces marches, on chante, on sent l'énergie du chant qui anime la marche. Est-ce que c'est juste comme appréciation?
C'est-à-dire que c'est pas la tradition qui a été politisée. Dans les manifestations qui font que des gens vont marcher ensemble dans la rue en scandant des slogans ou en portant des pancartes, très souvent, c'est souvent des petites chansonnettes satiriques ou politiques, décalées d'air connu. C'est une pratique, disons que c'est une pratique 20e siècle. Mais c'est pas le même répertoire, tout à fait.
Louis en parlait tout à l'heure. La médiatisation, la radio à outrance, les mini haut-parleurs qu'on voit un peu partout, il semble que le chant n'existe plus dans notre environnement social. Comment on fait en 2023 pour assurer l'épanouissement justement de cette tradition de chanter en marchant?
Chanter en marchant ou chanter tout court.
Le
chant à la marche est un usage, entre autres, de la chanson, de tradition orale, j'en parlais tout à l'heure, parce que mon travail et ma compétence de chercheur et d'analyste porte sur la tradition. J'ai rien contre les chansons d'auteurs, compositeurs, interprètes, mais c'est un autre univers, la chanson celle-là, ou la chanson de variété, ou la chanson rock'n'roll et tout. La chanson de tradition orale, il y a des structures, il y a des associations qui ont généré et qui génèrent encore de l'activité, encore une fois, qui n'est plus liée au quotidien des personnes, des familles, des communautés, des voies du voisinage, du village, etc., mais qui sont des pratiques choisies d'action culturelle, d'activité de type culturel. Mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. À Québec, par exemple, où j'ai même si j'y habite plus, c'était un peu mon alma mater, il y a une association qui s'appelle le Centre de valorisation du patrimoine vivant qui organise des événements autour de la musique d'une part, de la danse et du chant. Quand je suis dans l'intervalle entre deux séjours et deux résidences en France, entre 2005 et 2012,
Oui.
quand je suis arrivé à Québec, je suis revenu à Québec, et puis comme ça chantait beaucoup en Bretagne, j'ai dit, c'est bien, on va se faire des bonnes vieilles chansons. Je connaissais plein de chanteurs. Ben, on était allé dans un café, mais les gens, ils n'osaient pas chanter parce qu'ils avaient perdu l'habitude. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça, ben, on va en faire de la chanson. J'ai proposé un atelier qui s'appelle toujours d'ailleurs l'atelier de chant traditionnel de Québec. Et à partir de là, on a créé de l'activité. On a fait des repas chantés, des veillées chantées, des randonnées chantées. Et les gens qui venaient à l'atelier, ben, ils apprenaient du répertoire, justement parce qu'ils avaient des occasions pour le mettre en pratique. C'était pas juste pour le chanter dans leur cuisine tout seul de leur côté, mais on créait de l'événement et ça continue. L'atelier, moi quand je suis reparti en France en 2012, c'est ma fille qui a repris et qui continue de l'animer encore aujourd'hui. 11 ans plus tard, il y a encore des activités autour de l'atelier de chant traditionnel de Québec avec le Centre de valorisation du patrimoine vivant. Et c'est avec eux d'ailleurs qu'on a mis en place des randonnées chantées automnale bas et maintenant jusqu'à hivernale. Il y en a encore dans 2 semaines, je crois. Il y en a une, puis il y en a une en mars également. Donc voilà, c'est amusant. Et
Avant
ça
de...
fait que les gens ont de nouveau de l'occasion de le faire et de l'occasion de chanter en collectif.
J'aimerais poursuivre sur cette idée, sur cette lancée. Louis a une autre question pour vous, Robert.
Oui, bien sûr.
Ben, en fait, je voulais mentionner que moi, dans mes tournées sur le plateau, j'invite souvent les gens à se joindre à moi pour chanter. Et puis, il y en a qui embarquent, mais il y a une grosse résistance parce que je ne sais pas si c'est le respect humain. Ils ont peur de s'afficher. Maintenant, on n'ose plus, comment dirais-je, montrer qu'on existe, qu'on est vivant, là, si on veut. Là. On peut aimer la musique, mais passivement, sans trop. À moins que ce soit dans des endroits où là, tu as le droit de bouger. Mais sur la rue, les gens ont beaucoup de réticence à embarquer. Moi, je dis souvent aux gens que si tu as de la voix, là, embarque avec moi, on va se partir une troupe de troubadours sur le plateau, on va prendre quelques chansons,
puis si on était
4 ou 5 qui faisions ça, là, ben je pense que là, à 5, tu commences à avoir plus de crédibilité comme étant quelque chose qui est pas bizarre comme moi, ce que je fais, là, plusieurs trouvent que c'est pas normal, trop. Alors, mais si je réussirais à partir une troupe de 4 ou 5 personnes, puis qu'on se mette à marcher en chantant, je pense qu'il y aurait une autre dynamique qui se créerait.
Ben, il faut créer un atelier de chant traditionnel de Montréal, dans ce cas-là. Mais y en a des endroits. Il y a beaucoup d'associations qui organisent de l'activité. C'est très confidentiel. C'est pas du tout médiatisé. C'est pas quelque chose qui se vend. Les médias en ont rien. Pardon, excusez-moi l'expression, mais ils en ont rien à foutre en général. C'est des choses dont personne n'entend parler. Et pourtant, il y en a. Il y a des associations à Montréal, il y en a à Québec, il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Rimouski, il y en a dans Charlevoix. Et des gens qui organisent de l'activité autour du chant. Moi, je parle du chant de tradition orale. Je ne parle pas du chant d'auteur, compositeur, interprète. Et je ne parle pas des chorales. Mais il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont encore le goût de chanter. Il s'agit juste de leur offrir des occasions.
Oui, peut-être qu'ils ont le goût de chanter, mais... chanter en vase clos, genre là, t'as une association, puis on se regroupe, on se rejoint, on fait des choses ensemble, mais c'est l'association. Mais de chanter, de chanter dans la nature ou de chanter publiquement, ça n'existe pas. Même vos associations, je ne pense pas qu'ils sortent le samedi soir pour le vendredi. Peut-être.
Je m'inscris en faux. Au contraire, quand je dis une association, c'est les associations qui supportent, qui organisent, qui mettent les événements en place. Mais les gens qui y viennent ne sont pas des membres de l'association. Les randos chantés qu'on fait à Québec, par exemple, celle de j'étais là l'hiver dernier aussi, on en a fait une, et puis il y avait au moins 40-45 personnes. Et puis, ce n'était pas du tout des membres du Centre de valorisation du patrimoine vivant. C'était des gens comme ça qui connaissaient l'activité, qui n'avaient entendu parler, qui avaient le goût d'essayer, des gens qui sont déshabitués, puis d'autres qui, c'est la première fois qu'ils venaient. Donc, bref, c'est pas du tout fermé, c'est pas en vase clos et c'est pas fermé. C'est au contraire tout à fait ouvert. Si on va dans un café, un bar, et puis on se met à chanter, il s'agit juste de dire aux gens que ça existe, puis il y a des gens qui viennent pour ça.
Donc, Robert, il y a de l'intérêt. Vous avez abordé la question de la randonnée chantée. C'est quoi? Comment ça se déroule? Qu'est-ce qui se passe?
Tout bêtement, on se donne un point de rendez-vous. On s'assure qu'il y a au moins quelques personnes qui sont des meneurs potentiels, donc qui ont assez de répertoire pour pouvoir mener le chant à la marche pendant un certain temps. Des gens qui connaissent 30 chansons, Louis en connaît 30, mais dans la bande des gens qui s'intéressent à la chanson de tradition orale, il y a beaucoup de gens qui ont 50, 70, 80 chansons.
Oui, hein. Voilà, oui.
Voilà. Donc, c'est pas problématique. Et puis, à partir de là, on explique un petit peu à ceux qui n'en ont jamais fait, comme je dis, la marche est une danse comme les autres, donc essayez de suivre le rythme du chant, et puis on décolle. Il y a un meneur qui commence une chanson, et puis tout le monde y va, tout le monde suit. Certains ont de la misère à rentrer dans le geste, mais en général, ils y viennent assez facilement. Et puis ensuite, les relais se passent, et il y a même des gens qui osent essayer de mener une chanson, même s'ils ne l'ont jamais fait.
Alors, et c'est quelque chose, j'imagine, qu'on peut pratiquer en ville, à la campagne, en pleine nature, en forêt, un peu partout.
On peut faire partout. Ici, à Québec, dans les activités du CVPV, on en a fait sur le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, d'une part. On l'a fait dans le Vieux-Québec, en ville, carrément. On l'a fait dans le parc de Mézeray, en allant vers Beauport. Donc, il suffit simplement que... on ne fait pas sur les grandes rues avec beaucoup de bagnoles, mais s'il y a des espaces naturels ou des espaces où on est certain qu'on ne sera pas écrasé par le premier camion qui va arriver, on peut le faire.
Alors, pour aider le processus d'apprentissage, il y a une belle expérience qui a été tentée. C'est un ou une balado d'un organisme qui s'appelle Estrade, peut-être?
Oui, c'est le Centre de valorisation du patrimoine vivant. Oui.
Ah, c'est ça. Bon, donc il y a cette balado qui a été produite. Vous pourriez nous en parler un peu parce que je trouve que c'est un excellent outil pour apprivoiser la randonnée chantée.
Ça s'est fait, je peux difficilement en parler parce que ça s'est fait après que je suis parti.
On peut en parler quand même.
C'est pas moi qui l'ai réalisé. Mais effectivement, elle est proposée par le Centre de valorisation du patrimoine vivant. Il suffit d'aller sur leur site et puis de cliquer sur le balado, se mettre ça sur un téléphone intelligent. On se met ça dans les oreilles et puis finalement, là-dedans, il y a du chant. Il y a du chant à marcher, il y a du répertoire chanté par des meneurs comme s'ils étaient en randonnée. Et puis, on peut marcher en suivant le rythme. Et puis, on peut essayer même de répondre soi-même à celui qui mène. Donc, c'est une activité qui est un peu solitaire, cependant, malheureusement, parce que... Mm-hmm. Mais c'est déjà mieux que rien, et c'est déjà quelque chose pour s'initier au fonctionnement du chant, au fonctionnement de la réponse, et au rythme, et à la coordination entre rythme et mouvement.
Alors, je suis allé sur le site, justement, et j'ai écouté la balado. J'adore. C'est très bien fait. Et il y a aussi un livre numérique... de toutes les chansons sur la balado. Et je trouve l'instrument intéressant parce qu'on peut apprendre par cœur les chansons, bien sûr. On peut suivre. Et c'est une excellente occasion de commencer ce mouvement ou d'intégrer ce mouvement de randonnée chantée.
Oui, bien sûr. Mais il faut bien dire que c'est un instrument pour s'initier. Mais c'est vrai que le bon chanteur, c'est celui qui est capable de se passer d'un cahier. Il y a les choses dans sa tête. Oui. Au départ, on est peut-être obligé de passer par le papier. Maintenant, parce que il y a trois générations, les gens n'avaient pas de papier, ça se prenait essentiellement par tradition orale. Maintenant, il y a ça. Mais on n'importe pas un carnet de chant en marchant. Il faut vraiment qu'on ait appris les chansons et puis qu'on les ait dans la tête. Ou encore, on est là comme répondeur. Il y a des meneurs de toute façon.
Oui.
Alors à ce moment-là, on n'a qu'à répondre. On rentre dans le mouvement, on n'a pas besoin de connaître les chansons, on répond.
Alors Robert, vous connaissez évidemment les deux côtés de l'Atlantique. Vous vivez en France en ce moment, vous avez vécu effectivement longtemps au Québec. Comment vous voyez l'avenir de ces traditions orales? Grande question.
Oui, c'est une vaste question. Donc, il y a eu une bascule au XXe siècle parce que la société, son organisation économique, son organisation culturelle, son organisation sociale a complètement changé. Avant, les communautés, le peuple, prenons un grand mot, était le producteur de sa propre culture. Maintenant, il est devenu consommateur. Donc, il faut essayer de contrer ça. Il faut essayer de faire prendre conscience aux gens qui peuvent renverser la vapeur et redevenir des porteurs et des pratiquants des choses et non pas juste des consommateurs. Pour la chanson, ben encore une fois, il y a plus de gens qu'on pense qui aiment ça et qui ont le goût. Il y en a même qui sont devenus d'excellents chanteurs, totalement anonymes. C'est pas des gens qui vont monter sur une scène pour faire des spectacles, mais qui possèdent un très bon répertoire et qui le mettent en pratique justement dans ce genre d'activité. Comme je disais, les traditions aujourd'hui ne sont plus obligatoires. La vie au quotidien n'a plus besoin de ça pour continuer, mais c'est donc une question de choix. Et c'est une question de créer de l'événement et créer de l'occasion. C'est ce à quoi s'emploient d'ailleurs la plupart des associations ou des structures qui essaient de valoriser ces traditions. Là, on parle de la chanson, on parle du chant à la marche, mais on pourrait parler de toute la pratique musicale, la pratique de danse. Et il y en a plein encore de ça. Il y a des milliers de gens qui jouent de l'accordéon, qui jouent du violon. Il y a des si on recensait toutes les veillées de danse qui peuvent avoir lieu au Québec. De danse traditionnelle, j'entends, je ne parle pas de danse moderne. Il y en a plein.
Alors, Robert, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup de nous avoir appelé. De nous rappeler la magnifique tradition de la marche et du chant et de nous avoir donné le goût, peut-être de se mettre au pas en chantant. Merci beaucoup, Robert. Merci.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Et merci beaucoup, Louis.
Ça fait plaisir, merci. Merci.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons, encore une fois, qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et en rediffusion les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com, où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode, dont une courte biographie de Robert Boutillier. Vous pouvez aussi y laisser suggestions et commentaires à propos de cette émission. Encore une fois, merci beaucoup à nos deux invités, Louis Rousseau et Robert Boutillier, justement. Merci également à notre toujours joyeux technicien devenu marcheur, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec ce dicton oriental. Avant de te préoccuper de la route, inquiète-toi du compagnon. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.
Nous étions trois soldats du régiment d'Angers.
Nous étions trois soldats du régiment d'Angers.
Pour l'amour d'une fille, nous avons déserté. Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
Pour l'amour d'une fille, nous avons déserté.
Pour l'amour d'une fille, nous avons déserté.
Dans mon chemin rencontre une maréchaussée. Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
Dans mon chemin rencontre une maréchaussée.
Dans mon chemin rencontre une maréchaussée.
Ils m'ont pris, ils m'emmènent aux prisons enfermées. Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
Ils m'ont pris et m'emmènent aux prisons enfermées.
Ils m'ont pris, ils m'emmènent aux prisons enfermées.
J'y fus bien 6 semaines sans être interrogée. Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
Bon, fallurant d'Andenoguet, fallurant d'Andé.
J'y fus bien 6 semaines sans être interrogé.
J'y fus bien 6 semaines sans être interrogé.
Au bout de la 7e, mon